10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Tous les samedis, donc entre 10h et 11h, c'est l'islam au présent sur Beurre FM, une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun qu'on retrouve. Comment ça va, imam Abdelali?
Bah, alhamdoulilah, ça va. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être avec toi, Philippe, pour une belle émission qu'on a bien préparée ce
matin.
Comment
vont mes assiettes?
Tes assiettes vont très bien. Elles ont été stockées dans un endroit où est-ce qu'elles ne risquent rien. Donc, si tu les veux, je peux te les apporter.
Non, je veux savoir comment elles vont.
Elles vont bien.
Puisque l'imam Abdelali Mamoun a organisé un couscous géant dimanche dernier. C'était dimanche, ça s'est bien passé. Voilà.
Alors, c'est pas moi, c'est l'association qui est présidée par mon épouse, effectivement. Et qui a fait un succès magnifique.
C'était bon?
C'était très bon. On a eu surtout une très grande variété de couscous des différentes régions du Maghreb. Bon, on a eu, en passant de l'Est à l'Ouest, donc la Tunisie, Constantine, Sétif, Alger. Après, on avait quoi encore? Après, il y avait Oran, bien sûr, Saïda. On passe au Maroc. Voilà, bref, en tout cas, tout un panel de couscous arrivant de tout le Maghreb, ce qui donc était particulièrement appréciable. Dans une ambiance conviviale, musicale, voilà, on a même donné la possibilité aux femmes seules, toutes seules, tranquilles, de s'amuser entre elles et de passer des bons moments très, très, très agréables.
Bien.
Et n'oublierons pas de sitôt.
Et vous nous avez rapporté des restes ou pas?
Des restes, toi t'étais invité.
T'avais
ta table d'honneur
qui t'attendait. J'étais en direct, moi.
Avec le maire, avec toute l'équipe de la municipalité.
Alors, ça, c'est pas mon truc.
De la politique.
Oh non, moi, c'est pas mon
attends,
truc.
C'est des gens de. Attends, c'est ton parti, ils sont de ta tendance, là.
Non, moi, je suis. Moi,
je dirais pas aux autres, aux gens.
Moi, je suis en.
Philippe, quelle est la tendance politique de Philippe?
Je suis en cuisine, moi.
Sauf s'il me paye un petit bifton, là, je dirais rien.
Je vous paye un thé, tiens, tout à l'heure. Je vous paye un thé.
Qu'est-ce que ça pense, Faudel? On fait moite-moite, hein? Moite-moite.
Tu sais que c'est haram pour un imam de dénoncer.
De faire de la corruption.
Ah ouais, ça c'est hyper haram pour un imam. Alors là, je peux vous dire, mal barré. Et ça tombe bien, puisqu'on va parler de la médiation en islam ce matin, imam Abdelali.
Ouais.
Est-ce que cette notion de médiation en islam existe, et en quoi elle consiste si elle existe?
Eh ben oui, elle existe effectivement. Elle fait partie des actions honorables et appréciables que le croyant peut entreprendre dans sa vie. Et bien entendu, après avoir acquis des compétences pour la faire, bien sûr, parce que on peut parfois, avec de bonnes intentions, parfois commettre des dégâts et aggraver les choses, aggraver la situation plus qu'autre chose. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par médiation. Souvent, des gens vont, écoutez, moi, je vais arbitrer dans votre litige pour essayer de donner raison à l'un ou à l'autre, ce qui est totalement absurde. Dans une médiation, on n'est pas là pour donner raison à l'un ou à l'autre. Ça, il faut bien le rappeler. Le médiateur est là pour faire en sorte que les deux tournent la page et passent à autre chose. Et tourne la page, il se pardonne, et donc le médiateur est là pour adoucir, atténuer la gravité de ce qu'aurait pu commettre l'un ou l'autre, ou voire parfois même les deux, pour justement faire en sorte que les deux acceptent de se réconcilier, de se remettre ensemble, notamment quand c'est dans un couple. Donc la médiation.
Il n'y a pas de perdant, il n'y a que des gagnants.
Il faut, bien entendu, il ne faut pas.
Il n'y a pas un gagnant, il y a un perdant.
Souvent, les gens, ils sont comme ça, obtus, avec une idée manichéenne qui consiste à dire je viens pour essayer de savoir qui a raison, qui a tort. C'est absurde. Ça n'a ni queue ni tête de savoir qui a raison, qui a tort. Et alors, maintenant, on a dit c'est bon, c'est monsieur qui a raison ou madame qui a raison. Et alors, et après, ils sont séparés, il y a des enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, c'est pas ça la médiation.
Ça, c'est très humain, hein, imam Abdelali, de vouloir à tout prix avoir raison.
Et voilà, c'est souvent ça ce qui se passe dans un couple. C'est que parfois, chacun tire d'un côté de la corde, alors que normalement ils sont censés tirer du même côté de la corde, contre la société, contre leur environnement, contre leur toute réalité et toute cette adversité qui les entoure. Ils sont dans le même côté, les deux tirent du même côté de la corde. Malheureusement, non. Parfois, on a le constat que dans un couple, chacun commence à tirer deux extrémités de la corde, et la corde souvent casse, et la rupture se fait ensuite, et là, parfois, c'est souvent trop tard. Donc là, moi, c'est pour ça que je fais un appel à tous nos co-religionnaires en particulier, et nos auditeurs en général, n'attendez pas que la maison brûle pour faire intervenir les pompiers. Hein, quand vous n'arrivez pas à gérer une situation dans votre couple, n'attendez pas que tout crame, chérie, viens, il faut. La maison, elle est cramée, tout est cramé. Quand vous arrivez, vous n'avez que le constat de constater, par exemple, que le couple est séparé depuis déjà plusieurs mois, que la procédure de divorce est déjà entamée, la séance de non-conciliation, que le juge a déjà ordonné la séparation, etc., etc. Donc, tout plein de choses sont déjà faites, et là, on appelle l'imam. Pourquoi vous appelez pas l'imam au début? Le Coran nous dit « fa in khiftum » dès le moment où vous craignez un shiqaq, une divergence, un désaccord dans le couple, faites tout de suite intervenir un médiateur, une médiation. Un médiateur, dans le Coran, il est dit quelqu'un, un qui prend parti pour elle et un autre qui prendra parti pour lui. « Fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha » et pourquoi pas tout simplement un impartial, quelqu'un qui viendrait justement prendre parti pour les deux. Donc pas contre les deux, pas pour l'un ou pour l'autre, mais pour les deux, tout simplement, pour essayer d'atténuer, pourquoi pas même aller jusqu'à même dire des contresens, des contre-vérités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'idée, c'est de... l'intention, c'est de dire, de réconcilier, le médiateur a le droit, carrément, de rendre moral ce qui est immoral, ou tout simplement, d'être dans une démarche, de vouloir atténuer, apaiser, donner un caractère, c'est-à-dire pas trop grave à ce que a pu commettre l'autre, etc. Dans le but tout simplement de les réconcilier. Bien entendu, il faudra ensuite que cette relation nouvelle se fasse sur de bonnes bases. Il faudra établir des règles. Il faudra imposer. Donc pourquoi? Parce que ce couple-là s'est marié conformément aux préceptes du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un mot vain, cette phrase-là, cette formule que va dire l'imam au moment du mariage religieux, qu'on appelle entre guillemets la fatiha. Je dis bien entre guillemets parce que le mot fatiha n'a aucun sens, puisque même la récitation de la fatiha n'est même pas une sunna lors de l'acte religieux, même si aujourd'hui c'est devenu monnaie courante. Tout le monde le fait, même les imams le font. C'est une baraka, c'est tout, mais il n'y a rien de...
Il n'y a rien de légiféré.
Il n'y a rien de légiféré en la matière. Ce qui est légiféré dans un acte de mariage, c'est la formule de consentement mutuel en présence de témoins et du tuteur.
Et même l'imam n'est pas obligatoire.
Même l'imam, oui, mais bon, l'imam est là pour s'assurer que les choses se font.
Il est obligatoire ou pas?
Non, mais il faut la connaissance. Il faut savoir faire les choses correctement.
Mais quelqu'un peut faire le rôle d'imam, en fait, c'est ça?
C'est pas une question. Non, l'imam n'a pas de rôle. Il est là pour s'assurer que les parties prononcent les bonnes formules de la bonne manière et que les règles du mariage ont bien été faites en bonne et due forme. Il est là pour que, en fin de compte, l'imam est surtout un expert, un savant, un sachant qui va donner les informations au couple et à la famille des deux couples pour s'assurer que le mariage est conforme aux préceptes du Coran et de la Sunna. Voilà, et c'est surtout ça. Donc si un imam qui intervient et qui n'a même pas les connaissances et qui n'a pas étudié le droit canonique religieux, notamment en matière de nikah, de règles du nikah et du zawa et du talaq, etc., eh bien, il n'a rien à faire dans un acte de mariage, parce que vous avez des imams qui simplement ont mémorisé le Coran et qui sont là simplement pour diriger la prière, par exemple, ou qui n'ont étudié que les chapitres relatifs à l'adoration, à la pratique, à l'ibadat, mais qui n'ont pas étudié le mu'amalat, par exemple, ce qu'on appelle les rapports humains, que sont, entre autres, dans les chapitres du mariage. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise bien le sujet avant de s'engager dans cette démarche-là. S'ils le connaissent, s'ils savent le faire eux-mêmes, bah, tant mieux, pas besoin d'imam. Mais s'ils ne savent pas le faire, ils ont un doute sur comment, pour être sûr que ça se passe correctement, eh bien, il est préférable de faire venir un imam. Donc voilà, le Coran donc encourage cette médiation. Par exemple, dans le verset 35 de la sourate Nissa, c'est beaucoup dans la sourate les femmes, hein, sourate les Nissa, où Dieu dit par exemple en substance: wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma innallaha kana 'aliman khabira. Et si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Pareil, ça c'est le verset 35 dans la même sourate, verset 128. Il dit: wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la laderie, c'est-à-dire à la varice. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Alors pourquoi ? Parce que souvent les litiges dans les couples sont fondés sur l'argent, sur les litiges, les différends fondés sur l'argent. L'argent est souvent une source de conflit dans un couple. Il y a l'argent, mais il y a aussi la belle famille, qui sont les deux facteurs les plus importants de différends qu'il peut y avoir dans un couple. C'est la belle famille qui se mêle des affaires du couple, qui font de l'intrusion, et s'incrustent dans les affaires internes de ce couple-là, ce qui est bien entendu totalement inadmissible et intolérable, et surtout immoral. Les questions d'argent, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une réalité où maintenant madame travaille, alors que le scénario, du moins la formule que propose le Coran quant à la gestion du couple, c'est un pouvoir patriarcal, c'est-à-dire c'est l'homme qui est à la tête du foyer, qui dirige le foyer. La femme est là pour le concerter, pour le consulter, pour lui donner son point de vue, son avis, et c'est l'homme qui, bien entendu, en contrepartie, assume l'intégralité des besoins matériels du couple, de la famille et des enfants. Il paye la pension, il paye les commissions, il paye les factures, il paye le loyer. C'est le mari qui est censé tout payer. Voilà la formule classique qui est proposée dans le Coran. Le Coran nous dit « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » Ce sont les hommes donc qui déboursent l'argent pour assumer le couple, et en contrepartie, ils ont cette autorité patriarcale. Aujourd'hui, la réalité est différente. Aujourd'hui, nous avons des formules assez, où la femme travaille. L'homme n'a plus la même maturité qu'il avait auparavant. La femme, souvent, est beaucoup plus mûre que l'homme et propose des idées qui relèvent du bon sens beaucoup plus souvent que celui de son conjoint. Et le mari, parfois, soit il accepte et est fier d'avoir une femme intelligente qui vient lui donner des bons conseils, prodiguer des bons conseils pour gérer le foyer et ensemble avancer dans la vie et en affrontant toutes ces adversités, ces difficultés, etc. Ou parfois non, le mari est trop fier, trop prétentieux d'accepter les conseils de sa femme, et là ça part en vrille. Donc c'est très très souvent ce genre de scénario que l'on peut avoir. Je dis pas que c'est toujours comme ça. Je voudrais pas que des auditeurs m'appellent ah ouais mais non mais c'est pas comme ça. Non, c'est souvent comme ça, mais bien entendu c'est au cas par cas. Les situations diverses, il y a autant de situations que de cas, que de couples qu'il peut y avoir. Donc moi, j'interviens souvent et je constate qu'effectivement, ce sont les deux facteurs les plus courants que l'on retrouve dans des litiges et des griefs qui sèment la zizanie dans un couple, notamment la belle famille et l'argent.
Oui, et c'est pour ça que les questions d'argent doivent être évoqués avant le mariage.
Tout à fait. Et comment acquérir les recettes et dépenses
Et que c'est pas une petite question, mais
c'est une grosse question. Les gens, est-ce que tu m'aimes, mon amour, ma chérie, nanani. C'est des roucoulades de colombes qui se font
d'ailleurs,
avant.
Vous le faites bien. Moi, je trouve que vous le faites.
Ouais, je fais bien, Philippe.
Ouais, tu as bien là le roucoulement.
Je suis un pro, moi.
Mais c'est vrai que quand tu veux parler d'argent.
Voilà, il y a plus personne. Là, c'est le tabou.
Qui paye,
sujet tabou.
Qui paye quoi?
Mais c'est après, malheureusement, que ça sort de le mari qui voit. Je donne un exemple. La femme qui dit voilà, nous on s'est mariés conformément aux préceptes du Coran et de la Sunna, c'est à l'homme d'assumer. Sauf que la femme dit moi je décide. Elle décide de travailler. Sauf que à cause de son travail, monsieur se retrouve avec un certain nombre d'aléas, de choses qui vont lui provoquer des gênes et du tort dans sa vie. Ne serait-ce que, par exemple, quand il va recevoir les impôts. Quand on a deux salaires et quand on a un seul salaire, les impôts, c'est pas la même chose. Alors la femme va dire, non, mais c'est à toi de payer les impôts. Il dit, mais non, comment ça? Les impôts, je les paye parce que là, on a déclaré ensemble deux salaires. Et c'est pour ça qu'on est obligé de payer des impôts, alors que s'il n'y avait qu'un seul salaire, il n'y aurait qu'un seul impôt. Autre chose, la femme va dire, je travaille, donc c'est toi qui vas assumer la crèche, qui va payer la crèche mensuellement, puisque moi je vais travailler. Ben non, je suis désolé, madame. Si moi je travaille, t'es censé rester à la maison et t'occuper des enfants. Maintenant, si tu veux travailler, c'est à toi d'assumer la crèche. C'est des litiges comme ça. Même ça peut aller dans l'intimité du couple, où la femme va se dire à chaque fois à son mari, tous les soirs, bah, tu me touches pas parce que demain je dois me réveiller tôt et je suis pas en forme pour pouvoir faire ma douche, parce que vous savez, il faut enlever l'état d'impureté majeure après des relations intimes. Le matin, quand on se réveille, la femme, elle a pas envie de taper 2 heures de brushing devant son miroir, parce que son mari a tout simplement d'assouvir ses besoins intimes. Donc c'est tout à fait respectable de sa part, et c'est pour ça que le mariage existe. Mais la femme dira, ah ben non, oui, mais moi demain je bosse, demain je suis pas prêt, moi à chaque fois de refaire ma douche, puisque comme le dit la référence, il doit aller jusqu'à la racine des cheveux, elle doit mouiller jusqu'à la racine des cheveux.
En 2023, Imam Abdelali, on n'attend plus la nuit pour faire ces choses-là, hein.
Oui, mais quand on travaille toute la journée, Philippe, on est obligé d'attendre ça. On attend le soir. Et quand les enfants sont grands, on atteint un certain âge, Philippe. Ouais. Quand ils ont atteint un certain âge, tu peux plus, à 14 ans, 15 ans, les gamins, faire ça devant tes enfants. Tu es obligé d'attendre la nuit quand tout le monde dort, ou bien quand tu es dans ta chambre enfermée. Voilà, donc c'est compliqué, Philippe. Tu me dis non, bah d'accord, je veux bien. Tu vas m'expliquer hors antenne. Je pense que c'est l'heure de la pause, là.
Vous avez une conception d'avant. On est en 2023, les choses ont évolué.
Bah écoute, tu vas m'en parler en antenne et après...
Peut-être que les auditeurs, eux aussi, ont leur avis sur ce que vous venez de... Non, sur les exemples que vous avez donnés.
On va les écouter.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les couples d'aujourd'hui résonnent plus vraiment maintenant, même pour la question des impôts, sur les questions... C'est plutôt des questions de personnes qui dépensent beaucoup trop d'argent pour eux-mêmes.
Oui, d'accord.
Qui ont vécu longtemps ensemble.
Mais quand monsieur, il arrive le soir, que la maison, elle est retournée, et la femme, elle arrive elle aussi le soir, que la maison est retournée, et que monsieur lui dit, ouais, mais c'est à toi de nettoyer la maison, c'est à toi de faire le ménage, c'est à toi de faire le repassage, c'est à toi de faire
ça,
la vaisselle.
C'était avant.
Je sais.
C'était avant.
Je sais, mais les enfants, Philippe, ouais. Les enfants restent sur ce modèle que sont leurs parents, et souvent, ce couple-là, ou notamment le garçon, le mari, qui est marié avec cette femme-là, se dit, moi, pour moi, le modèle, c'est mon père et ma mère. Mon père était au boulot, ma mère était à la maison pour faire le ménage. Aujourd'hui, ma femme travaille. Quand j'arrive à la maison est crado, et tout va mal.
Voilà, et vous pouvez intervenir et rejoindre cette conversation au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et on parle de la médiation en islam aujourd'hui avec l'imam Abdelali Mamoun, et vous l'avez dit tout à l'heure, la médiation, ça ne consiste pas à donner raison à l'un ou à l'autre. Mais même s'il y en a un qui dit, j'ai raison ou pas, imam ?
Moi je lui dis...
J'ai raison ou pas, imam ?
Je lui dis, tu as tort de vouloir donner tort à ton mari, ou à ta femme. Parce que c'est ta partenaire, c'est ta moitié. Lui donner tort pour avoir raison, c'est individualiste. C'est une démarche dans laquelle tu es en train de consolider la scission, la séparation du couple. Vous êtes un, vous ne faites qu'un. Donc donner raison à ta personne au détriment de celui de ton partenaire, c'est contre-productif. C'est complètement absurde. Au contraire, tu devrais être fier qu'elle ait raison. Allez, ou qu'il a raison. C'est très bien s'il a raison.
C'est vrai que les personnes qui estiment qu'elles ont subi un préjudice, elles ont besoin d'être reconnues dans leur statut de victime.
Mais je ne suis pas psychologue, Philippe. La médiation, ce n'est pas une séance de psychologie. On n'est pas là pour soulager les consciences des uns et des autres. On est là pour faire en sorte que les deux se réconcilient et que les jeux partent sur de bonnes bases. Non pas pour dire, voilà, à la fin, ah, je suis soulagé, l'imam m'a donné raison. Et après, et alors, regarde, il t'a donné raison.
Se réconcilier... ou se séparer sur de bonnes bases. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Moi, je dis, à partir du moment où il n'y a pas réconciliation, je ne cherche en aucun cas à satisfaire ou à soulager la conscience de l'un ou de l'autre en disant c'est lui qui a raison, celui qui a tort. Mon objectif, c'est de pouvoir réussir à réconcilier le couple. S'il n'y arrive pas, pour moi, c'est un échec. C'est une séance qui n'a servi à rien. Je répète, je ne suis pas psychologue pour soulager la conscience des gens, pour leur dire voilà, c'est bien, finalement c'est lui qui avait tort ou c'est elle qui avait tort. Ça sert à rien, ça. C'est là, à ce moment-là, elle va faire une thérapie de psychologie pour ça, parce que c'est traumatisant, un divorce, c'est une séparation, c'est traumatisant. C'est même plus traumatisant que le décès d'un proche. Pourquoi ? Parce que le décès d'un proche, c'est une fatalité. On ne peut pas changer le destin. Mais par contre, le divorce, c'est souvent une remise en cause. On dit que c'est à cause de moi. Quelle erreur? À quel moment j'ai commis une erreur? Pourquoi j'en suis arrivé là? Donc il y a plein de questions qui se posent dans la tête de la personne et qui font que elle se culpabilise. Ça provoque un rongement. Elle se ronge les tripes. Elle est très très mal. Et ça peut durer très longtemps avant qu'elle puisse se reconstruire et s'engager dans une nouvelle relation. Alors que à l'époque des compagnons, c'était très monnaie courante le divorce. Voilà, on divorçait, tac tac, la femme se remariait quelques temps plus tard après sa période de viduité, à tel point que même le Coran vient atténuer l'excès de comment on appelle ça, d'enthousiasme qui existait chez les hommes ou chez les femmes de vouloir se remarier juste après un divorce, en leur disant calmez-vous, attendez, il y a une période de viduité à respecter. Le Coran est là pour le rappeler, pour vous dire combien ces hommes et ces femmes, dès qu'ils divorçaient, ça y est, hein, ils se mettaient à disposition, s'embellissaient pour aller s'engager dans une autre relation. Non, le Coran était là pour les freiner, pour un petit peu pour calmer leur enthousiasme et les rappeler que voilà, un divorce c'est quelque chose quand même qui demande du temps. Notamment, pourquoi il y a cette période de viduité? C'est pas simplement pour sibra, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas de bébé dans le ventre qui pourrait mélanger les semences, etc. Non, il s'agit aussi de donner le temps de cicatriser cette plaie, cette blessure qui est le divorce, qui est la séparation et qui est le sentiment d'échec, de ne pas avoir été à la hauteur par rapport à sa vie de couple. Et donc ces 3 mois qui sont le minimum exigés, ces 3 cycles menstruels permettent à la femme au moins, ou à l'homme aussi, de pouvoir se poser, dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'y suis pas arrivé, de réfléchir sur pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et comme on dit, les erreurs de jeunesse, il y en a souvent. Pourquoi il y a des erreurs de jeunesse? Parce que les couples ne réfléchissent pas à long terme. Ils se marient avec un partenaire et non pas avec le père ou la mère de ses enfants. Il faut aussi réfléchir avec ça. Pas simplement se dire, moi je me marie avec l'homme qui est beau, qui est ceci, qui est cela, qui va assouvir mes envies, etc. et mes besoins. Et non, c'est aussi mon partenaire avec qui je vais éduquer mes enfants, avec qui je vais construire un projet, je vais consolider une cellule familiale dans lequel je vais tenter de la stabiliser, parce qu'une cellule familiale instable constitue une cause qui va rendre instable toute la communauté et toute la société. Donc c'est fondamental que les couples soient stables, parce qu'une société instable, c'est un appel au chaos et au désordre, notamment quant à la manière d'éduquer les enfants. Les enfants grandissent totalement instables et ils vivent pas dans un foyer serein. C'est tous les jours la guerre, c'est toujours des problèmes, c'est toujours ceci, cela. Et là, les enfants, ça, ils n'en ont pas besoin pour grandir et s'émanciper convenablement. Tu sais très bien, Philippe, je vais pas t'apprendre. Tu en as reçu pas mal ici des experts qui ont certainement développé beaucoup ce sujet.
Alors, Imam Abdelali, est-ce qu'il y a pour la personne qui réconcilie des mérites de réconcilier des gens?
Oui, bien sûr, il y a énormément de mérites. Le Coran nous parle, par exemple, il dit « Il n'y a rien de bien, la khayra fi kathirin, il n'y a pas de bien dans ce que vous discutez en katimini, fi kathirin min najwakum. » Sauf, dira le Coran, illa man amara bi sadaqatin, sauf celui qui le fera en catimini, discrètement, on parle de conversation discrète, sauf celui qui fera pour encourager la sadaqa, ou bien encourager à faire des choses, à accomplir des choses de bonne séance, ou islah bayna nas, ou bien réconcilier entre les gens. Il n'y a rien de bon, je vais le citer, le verset 114 de la sourate Les Femmes, toujours. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, écoute bien, c'est là la récompense, et quiconque le fait, donc qui cherche à réconcilier les gens, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Il parle bien entendu d'accorder le paradis. Et le prophète était constamment dans le souci de réconcilier. Ça faisait partie même de son emploi du temps quotidien, de prévoir un moment pour réconcilier les gens qui sont en litige. Par exemple, un jour, il rapportait dans le Bukhari qu'il allait notamment réconcilier une tribu des Bani Amr ibn Auf, Et il disait à ses compagnons, idhabu bina nuslih bainahum, venez avec moi, nous allons les réconcilier. Il disait à ses compagnons, allez, venez avec moi, on va aller voir la famille ou la tribu des Bani Amr ibn Auf. Donc c'est une tribu qu'on appelle les Bani Amr ibn Auf de Médine. Et il disait, idhabu bina nuslih bainahum. Hein, voilà comment était le prophète. Il savait que cette démarche était très fructueuse et qu'elle était très, très bien entendu appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui le faisait allait obtenir d'Allah une grande récompense.
Qui est habilité à réaliser une médiation, Imam Abdelali?
Alors, l'habilitation, bien entendu, doit être fondée sur la capacité du médiateur à faire preuve de sagesse et de patience. Le sage doit être à l'écoute. Il doit maîtriser aussi les sources de l'islam dans lesquelles il va puiser les moyens d'apporter aux uns et aux autres les arguments pour les remettre à leur place, pour leur dire vous êtes soumis à Dieu, vous êtes mariés conformément aux préceptes du Coran et la Sunna. Eh bien voilà ce que dit le Coran et la Sunna. Ben, s'il ne connaît pas le Coran et la Sunna, comment tu veux que lui déjà soit capable d'apporter des éléments pour permettre au couple de se réconcilier? Donc c'est bien entendu le Coran qui est la source de réconciliation, donc il doit la maîtriser. Il doit maîtriser ces sources-là, c'est ce qu'on appelle ces références scripturaires. Le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une maîtrise parfaite, pas simplement les connaître, les textes, mais aussi leur compréhension, leur exégèse, hein, qui permet d'en déduire la manière de réconcilier. Donc le réconciliateur doit être donc compétent en cette manière-là. Il doit être sage, il doit être à l'écoute et il doit se donner le temps. Hein, il ne faut pas se précipiter, toi t'as tort, toi t'as raison. Hein, comme l'a fait justement Sayyidina Daoud, le prophète David, dans le Coran, quand il a essayé de réconcilier entre deux personnes, un qui avait 99 chèvres et l'autre qui n'en avait qu'une seule, et qui voulait s'accaparer cette dernière chèvre pour en parachever les 100 chèvres. Il a tout de suite réagi avant même d'écouter l'autre version en disant « Il a été injuste envers toi et c'est beaucoup de gens qui sont injustes, c'est pourquoi il fait ça à ton frère, pourquoi il veut prendre ta chèvre, il a tort. » Donc tout de suite il a donné tort à l'autre partie, avant même d'avoir écouté la version de l'autre. Donc il faut, surtout moi par exemple au téléphone, les gens ils m'appellent « Ouais mon mari ou ma femme, tatati, tatata. » Je dis « Oui mais madame, attendez, monsieur, excusez-moi, mais il faut que j'écoute l'autre version. » Je vais écouter sa version. Et souvent, malheureusement, quand j'écoute l'autre version, bah, le discours est tout autre. La réalité est tout autre. Il y a souvent des versions très contradictoires, dans lesquelles, quand on creuse et qu'on confronte les deux points de vue, eh bien, on constate que l'un a soit exagéré dans ce qu'il a dit, ou tout simplement, a tout simplement inventé purement et simplement pour se donner raison et donner tort à l'autre. Mais toujours, je suis rappelé à l'ordre que je ne suis pas là pour dire que l'un ou l'autre a tort. Il dit d'accord, il a eu tort, il s'est trompé, il a fait une erreur, mais est-ce qu'on peut essayer de tourner la page et passer à autre chose? Cette histoire, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'âme, c'est pas dramatique, c'est rien passé, il n'y a pas eu d'infidélité, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu violence conjugale, parce que moi, quand il y a violence conjugale, c'est même pas la peine. Moi, il n'y a pas de réconciliation. Moi, je suis le premier à soutenir la séparation. Un homme violent, pour moi, ça n'est pas un homme, ça n'est pas un être humain, c'est un barbare, c'est un sauvage qui n'a rien à faire avec sa femme, il ne la mérite pas. Parce que même un animal, on ne fait pas ça. Hein, on ne frappe pas les animaux, les chiens, même les chiens, on n'a pas le droit de donner des coups de pied ou de violenter ou de faire du mal à un animal. Eh bien, qu'en est-il de sa propre femme, celle que l'on a choisie parce que l'on aime et on est là à lui donner des coups, à la frapper parce qu'elle nous contredit, parce qu'elle se rebelle contre nous. Moi, je dis, cet homme-là, il ne mérite rien, il dégage, allez hop. Va jouer ailleurs, il y a circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi pas même la femme porte plainte. Je l'appelle, je l'invite à aller faire un certificat médical auprès du médecin légiste pour justement aller ensuite chez la police pour porter plainte, qui vont tout de suite attraper ce monsieur et le mettre en garde à vue avec ce qu'on appelle présence devant le tribunal tout de suite après pour qu'il puisse être mis hors d'état de nuire. Souvent ça, c'est plusieurs mois de prison et c'est tant mieux. Donc il faut apprendre aux hommes à respecter les femmes et de ne pas abuser de leur force physique. C'est tout, voilà, la violence conjugale ça suffit. Ça suffit. Voilà. Il y a des femmes qui meurent.
Et le Coran ne n'incite pas les hommes à frapper leurs femmes.
Certainement pas. Déjà le prophète lui-même qui avait 10 femmes en même temps, Il a eu 10 femmes en même temps. Et il vivait autour de 10 femmes. Il n'a jamais, ne serait-ce que menacé l'une d'entre elles avec une fleur. Avec une fleur.
Et les détracteurs de l'islam disent que c'est justifié par le Coran.
Oui, il y a un verset qui parle de quoi ? De nos choses. On parle de nos choses, mais il faut comprendre de quoi on parle.
Alors, on en parlera après la pub Imam Abdelali. Je rappelle que si vous voulez poser des questions sur la médiation, justement, vous pouvez composer le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et vous posez vos questions aujourd'hui au 01 53 48 3000 à l'imam Abdelali Mahmoud. On parle de la médiation et nous avons Mohamed qui est avec nous. Mohamed, bienvenue.
Allô ?
Mohamed qui est dans sa voiture. Bienvenue Mohamed.
Oui, bienvenue. Assalamu alaikum. Ce serait pour une question, mais moi ça n'a rien à voir avec le sujet que vous discutez.
Alors vous voulez, cher frère, ça dépend de quoi vous voulez parler, on va voir, oui.
Bah alors, c'était une question pour l'imam. Je voulais savoir si est-ce que c'est autorisé en islam de vendre des animaux donc à but alimentaire, donc en sachant que voilà, on a des règles à respecter, à des non-musulmans. Moi, c'est juste ça ma question.
Des animaux vivants ?
Bien sûr.
Donc des animaux qui vont être abattus.
Voilà, en sachant que. Donc il y a des gens musulmans donc, qui appellent, donc eux c'est pas un problème, mais à des non-musulmans, est-ce que je suis autorisé ou non à les vendre ?
Bien sûr, mais bien sûr que tu as le droit. Ce que tu vends, il est halal ou pas ?
Mais c'est vivant, donc...
On est bien là, d'accord, que les animaux vivants, que le bétail, hein, on ne parle pas de bovins, des ovins, des volailles, c'est ça ? C'est ça que tu es en train de me dire, c'est des animaux...
Exactement,
qui sont, tu ne parles pas de vendre des cochons ?
Non, je parle d'agneau, moi.
On parle d'agneau, bah l'agneau, il n'y a pas de problème, tu vends des agneaux à qui tu veux. Après, c'est à lui, il en fait ce qu'il veut. Moi, par exemple, je loue un appartement à un couple qui n'est pas marié. D'accord ?
D'accord.
Ce qu'ils vont faire dans l'appartement hors mariage, c'est pas mon problème. Moi, je loue des murs. Je loue une prestation qui est un logement. Je le loue. Je ne le loue pas pour qu'on y pratique des choses à l'intérieur. C'est pas la finalité de la location n'est pas pour commettre le haram avec. Parce que je comprends ce que tu veux me dire. Ça veut dire qu'eux, ils ne vont pas abattre les animaux selon les rites musulmans. Exactement. Et donc, cette viande ne va pas être halal. C'est ça que tu es en train de me dire.
Exactement.
Voilà. Mais ça, c'est pas mon problème, ça. Ce qu'ils vont faire avec l'animal, c'est pas, ça me regarde pas. J'ai pas besoin de savoir.
On n'est pas complices.
On n'est pas complices. Chacun assume ce qu'il fait. Moi, au moment où je vends. Je suis pas en train de tuer un animal et de le rendre illicite ou de le revendre ou revendre sa chair illicite. Moi, d'accord, je vends un animal halal, vivant. Donc chacun, il assume ce qu'il fait au moment où il le fait.
D'accord.
Voilà.
Ok, j'ai compris. Donc il y a pas de.
Vas-y, Khoya, vends tes animaux. Il y a aucun souci. Par contre, la seule chose que si tu es certain que la personne va maltraiter l'animal, tu n'as pas le droit de lui vendre. Si tu es certain, je dis bien, tu es certain que l'animal va être maltraité, c'est-à-dire qu'il va être torturé ou va être, dans des conditions sauvages dans lesquelles l'animal va souffrir, là, bien entendu, tu as une responsabilité de ne pas vendre ton animal à des personnes qui vont faire souffrir l'animal. Bien entendu. Mais s'il est abattu pour après être consommé par des non-musulmans, c'est leur problème. Ils font ce qu'ils veulent avec, c'est pas mon problème, ça. Chacun il assume sa religion et je ne peux pas imposer ma religion aux autres. D'accord ?
Voilà Mohamed. Alors Imam Abdelali, est-ce qu'il existe un processus de médiation qui est conforme aux règles de l'islam ?
Ah, bonne question. Oui, effectivement. Alors, par exemple, dans une médiation, il est souvent important que quand on fait asseoir les deux parties, de laisser la parole aux uns et aux autres sans laisser la possibilité à l'autre d'interrompre ou de couper la parole, mais de dire à la personne, écoute, t'as des remarques, tu les écris pour pas les perdre. Ton partenaire ou ton conjoint ou ta conjointe va parler, quand elle va parler tu te tais. Voilà, donc le processus c'est d'abord d'écouter les deux versions, d'écouter et de vraiment prendre le temps jusqu'à que la personne est vraiment elle a vraiment vidé tout ce qu'elle avait dans le cœur. Après on dit à l'autre personne, maintenant vas-y, tu peux répondre. Et tu peux à la fois dire ce que tu as dans le cœur et à la fois répondre à ce qu'elle a dit. Et après, tu laisses aussi l'autre. Jusqu'à que les deux ont à peu près dit tout ce qu'ils avaient à dire. Dès que tu commences à voir que les deux se répètent et ne font plus de l'argumentaire, mais simplement du matraquage pour convaincre avec les mêmes arguments. On stoppe la conversation. C'est bon, tout est clair, on a bien compris. Donc c'est la première chose. Ensuite, l'imam va mettre sur la table des conclusions, dire voilà, soit ce que tu dis, et voilà ce qu'elle dit. Voilà, s'il y a contradiction, on fait une confrontation, on les fait regarder dans les yeux, qui dit vrai, de ce qui dit faux dans cette version-là. Donc ils vont se regarder, à un moment donné, il y a l'un des deux, il va mentir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Quand ils sont face à face, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on, même à la police, hein, souvent, il y a des, quand il y a des litiges, des différends, eh bien, on réalise des confrontations. Et quand on a du mal à mentir à une personne quand on est face à elle, tu peux pas mentir sans que ça se voit, sauf si le gars c'est un grand comédien, mais souvent c'est compliqué de mentir les yeux dans les yeux, alors que tu sais bien que voilà le gars, et même quand l'autre va constater, oh ça va, non c'est pas possible, tu peux pas me regarder dans les yeux et mentir comme ça, donc ça va tout de suite se savoir. Donc il est facile de sortir un petit peu la vérité de tout ça. Mais même après cela, l'important, c'est de rappeler que l'un et l'autre, que personne n'est parfait, que quand vous vous êtes mariés l'un et l'autre, vous n'êtes pas mariés avec le prince charmant, l'homme parfait ou la femme parfaite. La madame, quand tu t'es mariée avec monsieur, tu t'es mariée avec ses qualités et ses défauts, et vice-versa. Rappelez à l'un et à l'autre que personne n'est parfait et que tout le monde peut succomber à des erreurs et des fautes dans sa vie. Donc à partir de là, si toi, tu admets que tu peux faire des erreurs, bah tu dois admettre que ton partenaire puisse lui aussi faire des erreurs. Donc à partir de là, c'est réussir à convaincre cela, d'essayer d'atténuer la gravité des fautes qui ont été commises, et tout simplement de dire que l'erreur est humaine. Emanum, erratum, je ne sais pas comment, c'est quoi là, c'est quoi la
ah, ne me demandez pas, l'erreur est humaine. Oui.
L'erreur est humaine, voilà, en français. Et à partir de là, on commence à demander pardon. Et moi, souvent, j'arrive à la fin, tout simplement, en disant à l'un et à l'autre, tiens-toi, prends-la dans tes mains, et à distance, hein, bien sûr, quand c'est à distance, dis-lui pardon, fais-lui un bisou, voilà, fais-lui un câlin, etc. Et dis, voilà, tournez la page et passez à autre chose. Voilà. Souvent, ça peut, moi, je peux forcer la main des fois, et puis il suffit qu'on force un petit peu la main pour que cela porte ses fruits, Philippe, et c'est souvent très très efficace. Bien entendu, si on n'y arrive pas, parfois il faut organiser plusieurs séances. Première séance, on n'y arrive pas, on recommence. Sauf que cela, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont à la fois formés pour faire ce genre de thérapie de couple et qui ouvrent des cabinets qui sont déclarés. Et souvent, parfois, ça peut coûter de l'argent. Mais vaut mieux payer, dépenser un peu d'argent pour retrouver son partenaire que de perdre son partenaire et garder ce petit peu d'argent que vous avez décidé de ne pas dépenser pour cette médiation. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur des médiateurs, et profitez justement qu'il existe aujourd'hui des médiateurs ethno-psychologues qui savent prendre en compte la réalité ethnique et religieuse du couple, comme des Ali Habibi ou des Farida Kassed, etc. Il y en a aujourd'hui qui, sur le terrain, font un travail très efficace et qui sont très compétents pour trouver des solutions, et notamment des imams aussi. Il y a même des imams. N'hésitez pas à contacter les imams qui, comme je vous le rappelle, eux ont la connaissance des textes qui permettent de recourir à ce qui va arbitrer des différends dans un couple. Qui, bien entendu, se sont mariés conformément, je le rappelle, conformément aux préceptes du Coran. Les deux se sont engagés dans cette formule-là, conformément aux préceptes du Coran et de la Sunna. Donc, je répète que cette formule-là n'est pas vaine. Il faut leur rappeler à tous les deux cette formule qu'ils ont prononcée au moment du mariage, que ce n'est pas une formule folklorique qui a simplement, allez, Fatiha, on a fait le consentement mutuel et puis c'est bon, et basta. Non. Cette formule-là, elle est valable tout au long de leur vie. Elle doit s'appliquer tout au long de leur vie commune. Donc il faut qu'ils l'appliquent, et que ton indifférent, voilà, c'est le Coran qui vient trancher et qui vient arbitrer entre nous. Le Coran est une miséricorde pour nous. Il vient nous guider pour adorer Dieu de la meilleure des manières, et la seule vraie manière qui doit être adorée. Mais aussi, c'est un moyen, dans ce bas monde, de jouir d'un bonheur grâce justement au fait qu'il devient un moyen de réparer les erreurs, de réparer les conflits, les litiges, les griefs qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre conjoints, etc. Le Coran est un moyen de islah, de réconciliation qui est très très puissant. Et j'invite bien entendu les couples qui sont en différent de l'utiliser à bon escient, Inch'Allah.
Je suis en train de regarder votre citation de tout à l'heure, Imam Abdelali. Alors c'est « Errare humanum est », mais il y a une suite qu'on oublie souvent, c'est « Perseverare diabolicum ».
Bah oui.
Persévérer dans son erreur est diabolique.
On dit en arabe « al-israr al-sarirati kabir », c'est-à-dire que persévérer dans la petite faute est une grave faute, devient une grave faute, une grosse faute. Hein, c'est bien entendu absurde. L'objectif, c'est de, quand on commet une erreur, eh bien, de se corriger. Certes, on peut succomber encore une fois ou deux, mais voilà, à partir du moment où ça devient récurrent, que constamment la personne tombe dans l'erreur, eh bien là, on dit que la personne fait preuve de mauvaise foi et qu'elle ne fait aucun effort pour essayer d'arrêter de commettre ces erreurs-là. Et ça arrive souvent dans les couples. Où le mari, par exemple, je donne un exemple du mari, hein, parce que c'est vrai que c'est l'inverse, va, par exemple, sur les réseaux sociaux, avoir des conversations parfois même exagérées et avoir des dérapages incontrôlés parfois avec certaines autres femmes qui va déplaire notamment à la conjointe et parfois créer des tensions. Donc il faut qu'il apprenne à prendre ses distances et à considérer que le sexe opposé n'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que on ne souhaiterait pas pour sa propre mère ou sa sœur ou sa fille, eh bien il est normal que les autres fassent de même, qu'ils veulent préserver leur femme, leur sœur, leur fille, de ces gens, de ces hommes qui veulent abuser d'elle. Donc c'est très important. Voilà. Et donc que la personne fasse un effort de ne plus tomber dans l'erreur qui crée des tensions dans le couple.
Imam Abdelali, redonnez votre numéro de téléphone pour ceux qui voudraient vous joindre.
Alors oui, le 06 29 25 35 00. Je répète, ce numéro-là, c'est pour vos questions. Vous pouvez m'appeler pour poser vos questions, vous inscrire pour la Umrah du mois d'octobre ou du mois de décembre. J'ai essayé de faire en décembre, Inch'Allah, un circuit avec Jérusalem, à qui ça intéresse. Au mois d'octobre, non. Au mois d'octobre, on va faire du 24 au 5 novembre, Inch'Allah, un beau parcours Médine-Mecca. Donc ceux qui veulent venir avec moi pendant les vacances de la Toussaint, les vacances de fin d'année, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Ce numéro-là est aussi valable pour vos Umrah ou Hajj par délégation. Pour celui qui voudrait faire une sadaqa là-bas à la Mecque et faire une Umrah dans lequel qui sera compté pour une personne défunte, vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Voilà, tout est dit.
Voilà, et dans un instant, ce sont vos petites annonces que vous passerez en direct sur Beurre FM, Imam Abdelali Mahmoud, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.